Salut les amis, bienvenue dans le plein de super, l'émission qui vous fait découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine. On va parler comics. Je suis Ringside, je suis accompagné, comme toujours, de l'inusable Isaac. Bonjour Isaac, comment ça va ?
Eh ben ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, un gros sommaire avec une petite BD.
Voilà, un sommaire très dense autour d'une petite BD. Est avec nous aussi Jérôme, le Lord of Babylon. Comment vas-tu Jérôme ?
Bonsoir à toutes. Bah ouais, ça va pas mal. Je renchéris sur Isaac en disant que voilà encore une émission qui vous prouve que la taille ne compte pas.
C'est vrai. On aime le croire. Et oui, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour Manhunter, une saga qui va nous emmener, enfin qui va nous ramener dans les années 70. On est en octobre. Enfin, ça va d'octobre à novembre 73, l'édition de Manhunter qui est dans les backups. Oui, on va parler de backups aujourd'hui, de petites histoires, d'historiettes, mais qui peuvent créer une grande histoire. Donc, des backups dans la série Detective Comics 437 à 443. Donc, Detective Comics, vous savez, c'est la série vedette où est apparu Batman, et dont Batman est le héros sur quasi la totalité. Donc, octobre-novembre 73 jusqu'à octobre-novembre 74, la publication. Et également, un chapitre final dans Manhunter, la spéciale édition, en 1999, puisqu'il y a eu une ressortie en 1999 de cette BD qui est devenue culte. Au scénario, on va avoir Archie Goodwin. Et au dessin, le grand Walt Simonson. On a déjà abordé le cas de Walt Simonson dans son run sur Thor. Vous pouvez aller écouter notre émission où on s'est entendu, on s'est étendu en large, en travers sur cette énorme saga autour du dieu d'Asgard. Bon, plantons le décor rapidement sur 1973, qui est une année riche hein, au niveau culturel, au niveau cinéma. On a des très grands films comme Le Parrain et des tonnes de films. Voilà, allez vérifier sur les sites, vous verrez que c'est une grande année culturellement parlant. Mais c'est aussi une année sombre, hein, puisque c'est l'année du Watergate. Et l'année de, par exemple, des coups d'État au Chili, la guerre du Kippour, tout ça. Donc, une année de désillusion, un petit peu. Et nous, de notre côté, on va parler de Manhunter. Alors, Manhunter, qu'est-ce que c'est ? Manhunter, ça, c'est une histoire qui sent un peu les pulps. Puisqu'on débute au Népal, à Katmandou, où l'agent d'Interpol, Christine Sinclair, remonte la piste à la recherche du Manhunter, un assassin auquel s'intéressent toutes les polices du monde. Le Manhunter serait lié à un dénommé Paul Kirk, un mystérieux personnage disparu depuis des années et réapparu récemment. On va vite découvrir que Paul Kirk et le Manhunter ne font qu'un quand Christine va finir par débusquer l'assassin. Le Manhunter va alors lui révéler son histoire. Ancien aventurier masqué dans les années 30, il a été démobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et envoyé dans des missions spéciales derrière les lignes ennemies. Revenu complètement traumatisé, il abandonne sa carrière de justicier. Et lors d'un safari, parce que quand on arrête des justiciers, on va chasser hein, en Afrique, on va chasser. Incapable de tirer sur le gibier, il va se faire tuer, écraser par la charge d'un éléphant. C'est bien tout ce qu'il mérite. Mais son répit est de courte durée, car il est ressuscité par le Conseil, une organisation secrète constituée des plus hauts dignitaires internationaux qui vise à remettre l'humanité dans le droit chemin. Au passage, le Conseil lui a octroyé un pouvoir d'auto-guérison semblable à celui de Wolverine, qui le rend quasi invulnérable. Mais, bien sûr, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et Paul va vite se rendre compte que non seulement le Conseil est complètement corrompu, mais également que cerise sur le gâteau, ils ont fabriqué une armée composée de soldats clonés à partir de son ADN. Donc là, ça va pas du tout. Il va donc se retourner contre ses sauveurs. Il n'aura plus qu'une obsession, réduire à néant le conseil et son armée de clones. Et c'est ce qu'il va le faire. C'est ce qu'il va faire à l'aide d'alliés rencontrés tout au long de son aventure, mais aussi avec l'aide de Batman, hein, parce qu'on rappelle que c'est quand même son magazine. Et notamment parce que dans sa croisade, le Manhunter va se retrouver à passer par Gotham City. Alors, Paul Kirk refuse d'abord l'aide du Chevalier Noir, mais tout à fait. Mais Batman débarquera en pleine bataille pour sauver la mise du Manhunter et de ses amis, un peu à la manière d'Han Solo. Et ainsi permettre à Paul Kirk de détruire la base du Conseil, d'atomiser son leader, tout en se sacrifiant, hein, révélant peut-être le vrai but de sa vendetta, trouver enfin le repos. Donc on démarre à Katmandou, mais on va aller un peu partout, hein. C'est assez exotique, ouais. Les aventures du Manhunter. C'est pour ça qu'il y a cette petite, cette même grosse influence pulp. On est dans les années 70 et tout ça est créé sous l'impulsion d'Archie Goodwin qui reprend à l'époque, il me semble, le travail d'éditeur sur Detective Comics. Ouais. Dis pas de bêtises, Isaac.
Non, en fait c'est la backup va être publiée toute l'année où Archie Goodwin dirige le titre de Detective Comics, qui était en fait sous la houlette de Julius Schwartz depuis 1964, mais dont les ventes étaient en perte de vitesse. Donc Carmine Infantino propose à Archie Goodwin, qui est un scénariste et éditeur qui a déjà pas mal d'années en fait de profession derrière lui, puisqu'il débute, je crois, fin des années 50, début des années 60, comme assistant pour Leonard Starr, qui est un dessinateur de comic strip. Et il va également bosser pour. Il va faire notamment une série de comics de guerre et puis écrire des comics d'horreur aussi. Je crois que ça s'appelle Blazing Combat, son comic book de guerre qui aborde notamment des histoires sur la Corée, sur le Vietnam, qui sont assez directes. Assez peu dans l'air du temps de patriotisme exacerbé qui regarde vraiment la guerre de façon objective, on va dire. Et il va aussi reprendre un strip d'aventure qui est très connu aux États-Unis, qui s'appelle Agent Secret X9, qui a été créé par Dashiell Hammett et Alex Raymond dans les années 30, et qu'il va reconvertir, qui s'appelle Secret Agent Corrigan, à la fin des années 60, donc je crois que c'est 68-69, avec Al Williamson au dessin. Et donc c'est quelqu'un qui a ce savoir-faire en fait, à travailler dans des genres qui ne sont pas forcément ceux du super-héros, même s'il va écrire Iron Man, il va écrire de très bons épisodes d'Iron Man dessinés par George Tuska.
Ça fait partie d'un des meilleurs runs de l'histoire d'Iron Man. Ouais. Clairement. Ouais, ouais. C'est lui vraiment peut-être qui va donner de l'épaisseur au personnage et à l'univers d'Iron Man. Hein.
Bon. Ouais, et je trouve même que le ton et les dialogues de Archie Goodwin dès les années 60 est déjà un cran au-dessus de la concurrence. Et en fait, c'est des dialogues qui ne vieillissent pas. On peut trouver qu'il y en a beaucoup, parce qu'il écrit énormément comme tous les scénaristes de l'époque. Néanmoins, la qualité des dialogues, la qualité de la caractérisation, la qualité... des péripéties et des enchaînements est toujours plus ou moins original, assez racé, je dirais, assez quelque chose d'assez fin dans le c'est vraiment du très bel artisanat, quoi, quelque chose de vraiment et puis quelque chose qui va faire école, parce que il va être influencé. Donc on est au début des années 70, donc James Bond a dominé les années 60 en termes de monuments culturels, d'aventure et d'action. Et le début des années 70, on va avoir la vague de films de kung-fu, on va avoir la vague de films d'horreur, on va avoir aussi toutes ces histoires qui reviennent sur que sont devenus les anciens nazis après la Seconde Guerre mondiale, où est-ce qu'ils se cachent, notamment le film Ces garçons qui venaient du Brésil. Avec des scientifiques nazis qui font des expériences en Amérique du Sud. Voilà, il y a toute cette dimension en fait qui est à la fois historique, politique et pulp qui se mélange et qui imprègne complètement, je dirais, Manhunter. Pourquoi est-ce qu'il crée Manhunter dans Detective Comics ? Parce qu'à l'époque, Detective Comics, comme tous les comics de DC, passe à 100 pages. C'est-à-dire que vous n'avez pas seulement la vingtaine de pages qui est consacrée à l'épisode central de Batman, mais vous avez des backups. Et vous avez beaucoup de backups qui sont des rééditions notamment du Golden Age, qui sont sélectionnés par Nelson Bridwell, qui est l'assistant éditeur donc de Archie Goodwin et puis d'autres éditeurs chez DC Comics. Et Archie Goodwin a cette idée de faire un héros de deuxième génération, comme il y a eu Flash, Green Lantern, Atom, Hawkman dans les années 50-60. C'est-à-dire un héros qui reprend un pseudonyme des années 40, mais qui va être complètement différent de la version des années 40. Et il explique que lui, il n'est pas intéressé par les grandes vedettes de DC Comics, mais il aime bien les personnages un peu obscurs. Et il va prendre ce personnage de Manhunter, qui a connu quelques épisodes par Joe Simon et Jack Kirby dans les années 40, qui est, où le principe est un chasseur professionnel assez fortuné, qui utilise ses méthodes de chasse habituelles, de chasse de grand gibier, pour traquer des criminels. Et voilà. Et donc, il va partir sur cette idée-là et expliquer ce que tu as résumé, notamment qu'il a disparu après la... Durant la Seconde Guerre mondiale, il a été embauché par les services secrets alliés, qu'il a fait des missions du côté des lignes ennemies, qu'il en est revenu traumatisé, qu'il a disparu lors d'une chasse en Afrique. Au départ, il ne veut pas reprendre le personnage de Paul Kirk. Il veut créer un nouveau personnage qui s'appellera Manhunter. Mais finalement, au fur et à mesure de l'élaboration du concept et de l'histoire avec Walt Simonson, ils se disent, tant qu'à faire, autant reprendre le personnage des années 40, dire que c'est le personnage qu'on connaissait dans les années 40, et justement inventer cette histoire de sérum qui le rend plus ou moins immortel, d'être congelé d'être mis en hibernation pendant des années par les scientifiques du Concile pour pouvoir l'utiliser comme assassin et remplir les basses manœuvres de cette organisation. Toutes les petites pièces se mettent en place, notamment grâce à sa collaboration avec Walt Simonson, qui à l'époque est très jeune, qui a 26 ans, et qui a été repéré notamment par Archie Goodwin, donc, qui lui offre ses premiers... en fait, sa première vraie grande série, même si c'est une backup. Walt Simonson, qui au départ, on l'avait dit, avait fait une BD de en mémoire de fin de d'études, ouais, qui était une BD de science-fiction. Donc les éditeurs lui passaient plutôt de la science-fiction. Et en fait, Archie Goodwin, lui, le mettait sur des... Il explique sur des petites histoires de guerre. Et en fait, quand il a vu ce qu'il donnait, il s'est dit, ben, on va bosser ensemble. D'autant que je crois que Walt Simonson explique qu'à l'époque, il vit chez Archie Goodwin, en fait, parce qu'il n'a pas d'assez d'argent pour se payer un appart. Et du coup, c'est Archie Goodwin qui l'héberge. Et Walt Simonson raconte que c'est la meilleure collaboration qu'il a eue, où en fait, ils ont tout bossé ensemble. On explique aussi que les chapitres dont on parle font que 8 pages. Donc sont publiés une fois tous les 2 mois. Detective Comics, c'est à l'époque est bimestriel. Il va y avoir 8 chapitres, 7 chapitres de 8 pages qui vont être publiés là tous les 2 mois. Et le dernier chapitre qui sera la grande aventure de Batman, dans lequel donc la conclusion de l'histoire de Manhunter est aussi une histoire de Batman. Il s'appelle Gotterdammerung et qui est dans le Detective Comics 443. Donc la façon de faire ces épisodes, Goodwin explique qu'ils utilisent la méthode Marvel. Donc la méthode Marvel, on l'avait déjà expliqué plusieurs fois, mais en gros, c'est on discute de l'intrigue, on écrit un peu ce qui... Le scénariste écrit un peu ce qui se passe sur la page, mais vraiment très, très rapidement, une ébauche, et c'est le dessinateur qui va faire le découpage complet de l'action. Et comme il n'a que 8 pages, Walt Simonson, eh ben, il va blinder.
Se creuser.
Voilà, sa page pour mettre toutes les informations. Et après coup, c'est Archie Goodwin qui met qui met les dialogues. Et Archie Goodwin explique qu'ils sont tellement pris au jeu de cette série, de Manhunter, ils ont tellement senti qu'ils avaient quelque chose de spécial, de particulier avec cette série-là, qu'ils passaient autant de temps à réaliser ces 8 pages que les autres épisodes de 20 pages qu'ils faisaient sur la série Batman. Sachant que, donc, à l'époque, Goodwin est non seulement éditeur de Detective Comics, mais il écrit aussi les épisodes de Batman qu'on trouve durant cette année. Et les épisodes de Batman sont vraiment excellents dans même la qualité de ces épisodes-là. Le choix des dessinateurs qu'il a sélectionné sur ces épisodes, c'est des épisodes qui sont maintes et maintes fois réédités depuis, qui sont généralement des histoires en une autoconclusive, mais les dessinateurs sont... Il y a Jim Aparo qui fait donc ses débuts sur Detective Comics alors qu'il était déjà sur Batman Brave and the Bold. Il y a Howard Chaykin, il y a Alex Toth, il y a du beau linge, il y a Salam Abdallah. Il y a un seul épisode qui n'est pas écrit par Archie Goodwin, qui est en fait un épisode écrit par Steve Englehart sur une idée de Neil Adams et dessiné par Salam Abdallah, qui est devenu légendaire et qui sera remanié par Darwin Cook dans les années 2000. Qu'un épisode où Batman ne prononce pas une seule parole, en fait. Un épisode où, qui est quelque chose de la description. Et voilà, pour finir sur ces épisodes-là, donc moi j'ai la chance d'avoir les numéros individuels. C'est vraiment que de la bombe, en fait, cette année-là. C'est vraiment une année d'exception. Les années 70, c'est plutôt le haut du panier pour Batman, parce qu'il est plutôt bien servi avec Denis O'Neill, avec Steven Gellhart, avec Neil Adams, Marshall Rogers, Len Wein, Jim Aparo, tout ça. Mais cette année-là de Detective Comics géré par Archie Goodwin, c'est vraiment c'est un petit bijou. Et c'est une montagne de bijoux. Et au milieu de ce bijou, il y en a un qui resplendit encore plus et qui est Manhunter. C'est vraiment...
Ouais, mais Archie Goodwin, il n'est pas extrêmement connu en France. Il n'est pas... Je ne trouve pas qu'il a la reconnaissance qu'il devrait avoir. Oui. Il est rarement cité. Pourtant, c'est quand même un gage de qualité qui fait jamais défaut. Hein. Moi, tout ce que j'ai lu de lui, ça a toujours été bon. Ouais. Hein.
On parlera peut-être un jour de ses Star Wars aussi. Et puis, je crois que Jérôme est fan de la l'adaptation d'Alien.
Son adaptation encore avec Walter Simonson. Qui pareil là, ils sont en feu là les deux. Hein. Pourtant, Dieu sait que les adaptations de en comics ou en BD de films peuvent être sacrément casse-gueule. Ouais. Et puis là, ils font plaisir. Il y a des images qui impriment la rétine. Et puis j'aime beaucoup les années 70 de Simonson parce que il travaille, il est jeune quoi, donc il fait plein de choses, il teste, enfin c'est même pas il teste, tu vois, mais il n'a pas encore le style qu'on lui connaît à partir de des Jeunes Titans, enfin de Thor, de tout ça, tu vois. Donc on n'est pas du tout dans cette il n'a pas encore cette épure, enfin en tout cas il n'est pas là mais ça reste que, en fait, déjà tu le vois pour ce qui concerne Manhunter, tu le vois dans le découpage. Et aussi dans cette capacité qu'il a de remplir, enfin vraiment d'avoir des cases incroyablement denses, mais toujours totalement lisibles. Là, je pense d'un coup, là, en parlant à cette page où on voit le chef du conseil avec tous les autres membres du conseil derrière, avec le casque qui se met, et qui est un passage où en même temps, c'est on est en train d'expliquer à Paul Kirk qu'est-ce qu'est le conseil et tout ça. Enfin, c'est un truc assez immense. Où il y a aussi le passage flashback quand Paul Kirk explique à Sinclair son passé, et tu vois tout le truc, toute la partie Afrique du Sud avec lui-même dans son ancien costume, avec l'éléphant, enfin tout le côté un peu comment je dois montrer toute l'Afrique, enfin tout ce passage, et il te joue ça juste avec du symbole quoi, un éléphant, un peu de jungle, le costume, tout ça, enfin la Seconde Guerre mondiale après, boum. En une page, parce que voilà, il y a 8 pages, mais c'est des pages qui sont incroyablement denses, mais toujours lisibles. Et c'est ça qui est assez incroyablement fort. Enfin, je pense que c'est là avec Archie Goodwin qu'il arrive enfin, qui travaille ça, quoi, qui affûte ce don qu'il a de faire passer énormément de choses, visuellement incroyablement dense, mais de jamais perdre la clarté de la lecture, notamment dans une première lecture, où quand tu es dans une première lecture, tu t'attardes pas forcément. Tu vas lire l'histoire, tu vas un peu aller au vif du récit. Et en fait, il perd jamais ça, et que quand tu le relis, à chaque fois, tu vas t'attarder sur des centaines de... Enfin, pour ce qui est de Mindhunter, tu t'arrêtes sur quasiment toutes les cases. Il n'y a pas une case à acheter.
Hein.
Ouais, où tu ne vas pas t'arrêter, où tu ne vas pas relire. Et aussi, je trouve un récit qui te fait revenir en arrière très souvent. Parce que tu vois à quel point c'est aussi en termes d'information, c'est assez incroyable à quel point quand tu as certaines informations, tu vas relire des passages avant et tu vas comprendre comment tout s'imbrique. On citait donc dans le contexte l'émergence de l'espion en tant que figure populaire dans les années 60 avec James Bond. Et puis à la télévision, hein, exactement. Et je pense que moi, quand j'ai relu la Manhunter, je trouve aussi qu'il y a incroyablement du prisonnier.
Oui.
C'est pas un espion, c'est pas James Bond, le Manhunter. C'est le James Bond désabusé. C'est déjà le mec qui a posé sa démission comme le personnage de McGowan pose sa démission au début de la série et se fait capturer après derrière pour être emprisonné dans le village. Et je trouve qu'il y a de ça. Le conseil, c'est enfin il y a du village, peut-être le village global pour ceux qui connaissent la fin du prisonnier. Enfin et je trouve qu'on est déjà dans cette autre époque de l'espion où c'est plus le truc angélique, c'est vraiment le côté désabusé et complètement, mais putain, qu'est-ce que je fous dans un monde qui est complètement ouf, quoi, encore plus ouf qu'avant, quoi.
Ouais, je trouve que c'est à la relecture, c'est quelque chose de c'est même quelque chose d'émouvant sur le personnage, c'est-à-dire que son but en fait, son but c'est vraiment de mourir. Ce qu'il explique, c'est qu'il pensait connaître enfin le repos là, quand il y a eu cette chasse à l'éléphant qui s'est mal passée. Et on lui a enlevé ça. C'est ce qu'il le dit lui-même. Il dit on m'a enlevé ça, en fait. On m'a enlevé le repos. Et c'est ce qui le. C'est autant les malversations du conseil qui le motive à agir pour empêcher justement que ces scientifiques ne commettent leur complot pour prendre le contrôle du monde, mais c'est aussi de la vendetta, c'est aussi de la vengeance personnelle. Il est aussi motivé par le fait que on l'empêche de mourir. L'empêche de mourir, et il va être de plus en plus dur à tuer, étant donné qu'il a cette capacité auto-régénérante qui va forcément inspirer quelque temps plus tard Wolverine, qui n'est pas encore créé à l'époque. Qui apparaîtra, je crois, c'est 74 Wolverine ou 75. Mais en tout cas, le Manhunter anticipe Wolverine.
Ouais,
il anticipe beaucoup de choses, c'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de thèmes qui sont qu'on va retrouver dans le futur, rien qu'une armée de clones. Bon, voilà. Je ne fais pas un dessin. c'est simple. Oui, et puis toute l'influence, le Winter Soldier, le côté ninja asiatique, la culture asiatique mélangée avec tout son arsenal, où on apprend dans la définition du katana, notamment. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, mais à l'époque, c'était pas...
Mais tu vois,
c'était complètement novateur, ce genre de truc.
Tu vois, contrairement à des BD ou des films qui ont tellement créé quelque chose et qui ont tellement été repris, qui quand des personnes qui connaissent pas 10 ou 20 ans après vont découvrir ça et vont se dire mais en fait c'est quelconque. Alors je prends l'exemple typique de Halloween de Carpenter, qui est que quand tu as dans les années 2000 que tu t'es bouffé du slasher à foison et que tu découvres Halloween, tu te rends pas forcément compte à quel point ce qu'a apporté Carpenter à ce moment-là. Là, c'est incroyable. Tu as le cité, enfin, l'imagerie japonaises, enfin les katanas, les shurikens, enfin tout ça. Il y a
les ninjas avec masque de démon là.
Les ninjas, le pouvoir d'auto-guérisseur et puis même la voix off. Alors, c'est pas véritablement une voix off dans le sens où en fait c'est des flashbacks, donc il parle à Sinclair, mais fondamentalement c'est déjà les techniques un peu récitatives qu'on va retrouver avec un Wolverine. Et d'ailleurs j'aime beaucoup, je crois pas que ce soit en VO, mais en VF j'aime beaucoup le fait d'avoir utilisé la phrase de Wolverine, je suis meilleur dans ma partie. Je sais pas si en VO c'est mais la VF, j'ai trouvé ça vraiment très 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 pertinent. Mais honnêtement, même quand tu regardes, tu découvres le Manhunter aujourd'hui avec toute cette culture qui s'est complètement intégrée au reste, et ben n'empêche que tu sens la particularité du truc. Tu sens l'atmosphère complètement différente parce qu'il y a un côté désespéré. Moi, l'épisode que j'adore, c'est l'épisode où en fait il est la première page, c'est il est complètement blessé dans une rue. Et en fait, c'est là qu'il va raconter son histoire à Sinclair, tout en elle le défendant par des vagues d'attaques d'autres clones. C'est ultra désespéré parce que tu te dis à chaque fois il pourrait se faire tuer enfin à ce moment-là, enfin pour ce coup-là. Et j'aime cette. Ça rejoint ce que dit Isaac, c'est-à-dire que c'est une quête d'un homme qui veut mourir. Et tu le sens dans toutes les pages. Avec le côté aussi qui contrebalance, qui est le look même du personnage, qui est complètement rouge, bleu, blanc, ultra voyant pour un univers où tu dois te fondre dans les ombres. Enfin, je veux dire, normalement, où un Batman se fond bien, lui, il est complètement à l'opposé. Et ce qui fait encore, je trouve, son originalité quoi, et sa force.
C'était volontaire, d'ailleurs, le fait de lui mettre des couleurs vives, en fait, pour le distinguer de Batman. Et c'est vrai que je trouve même l'intégration en fait des éléments exotiques, justement, ça fait pas exotique. Ça fait totalement logique, ça fait pas assemblage. Je trouve que comparé à Shang-Chi, le maître du kung-fu, qui sort à peu près à la même époque et qui a en plus un début assez similaire, puisque Manhunter, on l'envoie, en fait, sa première mission que le conseil lui donne, c'est d'aller abattre un agent d'Interpol. Shang-Chi, c'est pareil. Fu Manchu lui demande d'aller tuer, pour la première fois où il va en Occident, il lui demande d'aller tuer Denis Neville, je crois, qui s'appelle comme ça, l'agent de Scotland Yard, ou de l'OSS. Des services secrets, je sais plus, je crois du MI6, enfin bref, c'est pas très, très important. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les histoires, les intrigues sont similaires, mais déjà, dans Manhunter, il y a le détournement de la chose, puisque la cible chez Shang-Chi, c'est en gros, c'est il refuse de tuer, il rejoint le camp du bien. Mais dans Manhunter, quand il arrive et qu'il doit tuer sa cible, en fait, il s'aperçoit que sa cible fait déjà partie du conseil. Et en fait, c'est juste un test pour savoir si... parce qu'il se doute que Manhunter commence à poser des questions sur l'organisation. Et ils se disent, tant pis, si on l'aura pas pour diriger notre organisation tueur, c'est pas grave puisqu'on l'a cloné. Donc, en fait, s'il nous rejoint, tant mieux. S'il nous rejoint pas, tant pis. Et ça donne aussi quelque chose d'assez... d'assez moderne, je trouve, à la façon dont le conseil est montré, qui est vraiment montré, pour le coup, comme une machine à broyer les individus qui se fout en fait complètement de la vie humaine, qui cherche uniquement l'efficacité, qui rappelle bien des gens aujourd'hui.
Certes. Ouais, puisque dès le départ... tout est foutu d'avance en fait. C'est-à-dire que même le boss d'Interpol, il fait partie du truc, il est corrompu. Le boss de la gente qui recherche le Manhunter et qui va se rallier au Manhunter, elle va même son propre père va se retourner contre elle. Il y a aucun échappatoire en fait.
Ouais, il y a quelque chose de complètement paranoïaque en fait dans le.
Ouais. Ce qui donne Encore un autre aspect à la série qui fait qu'il est, qui, c'est vraiment une espèce de course-poursuite où le danger est là à chaque coin de rue. Quoi. C'est,
ouais, ouais, voilà, ce que j'allais dire, c'est que tu as l'impression que vraiment le monde entier s'est ligué contre eux.
Ah, c'est ça.
Et le seul qui va les aider, c'est un vendeur d'armes qui est, qui est le fils en fait du guide de Paul Kirk dans les années 40 en fait, qui était un peu le serviteur quoi de Paul Kirk et qui explique que moi je serais pas le serviteur comme mon père en fait. J'ai mon business de vente d'armes voilà. Et je vais t'aider parce que c'est bon pour les affaires et puis parce que voilà il a une certaine dette mais ses alliés sont pas non plus comment dire c'est pas des pro chevaliers quoi en fait, y a ça aussi il y a ce côté ambigu dans les héros qui est hyper intéressant
c'est même son mentor qui au début un peu qui est donc celui qui l'entraîne, qui va s'opposer à lui parce qu'il suit son propre code de l'honneur qui va après
qui est l'ancien garde du corps d'un scientifique qui a survécu à Hiroshima en plus il y a tout
il y a encore tout
ah non mais
de Hiroshima et quoi
mais c'est assez incroyable de tout ce que ça vaut et puis le côté le code de l'honneur est incroyable dans le c'est un des piliers du truc, quoi, justement. C'est ce qui pousse beaucoup de personnages.
D'autant que tu as énormément de figures qui reviennent au fur et à mesure des 8 chapitres, des figures héroïques. On a les ninjas, on a les agents secrets, on a, quand je parle héroïque, héros d'aventure, quoi. Terme plutôt protagoniste en fait d'aventure, mais t'as aussi un cowboy avec le petit gars
parce qu'ils se permettent aussi un épisode d'humour quand ils sont dans l'église ou
dans une
cathédrale là où il y a la grande réunion du conseil que va infiltrer Paul Kirk. En même temps, il y a un couple et un enfant qui visitent la cathédrale. Et
c'est une cathédrale à Istanbul en plus.
À Istanbul, ouais.
Il y a tout ce décalage. Ouais.
Voilà, l'enfant est témoin de toutes les bagarres du combat du Manhunter pendant que le père. Il est déguisé en cow-boy et le père n'arrête pas de se plaindre qu'il fait chaud, que c'est quand même et que les touristes ils ont pas de respect, mais il passe son temps à prendre des photos quoi.
Mais c'est
ils
incroyable.
Se permettent même ça c'est pour dire à quel point
c'est
dense et ils sont chaque épisode a sa spécificité en fait.
Chaque chapitre est indépendant même s'il y a un fil rouge. Ça me rappelle aussi beaucoup moi forcément donc il y a la virtuosité d'Archie Goodwin à écrire du strip parce que du comic strip donc c'est vrai qu'on a peut-être passé en vitesse mais le comic strip c'est les bandes de journaux donc c'est les bandes quotidiennes où il y a 3 à 4 cases d'aventure et donc écrire des aventures intéressantes en 4 cases chaque jour pas donné à la portée enfin c'est pas la portée du premier venu quoi et Archie Goodwin il a cette expérience là
il y a pas question de faire de la décompression
il faut y aller faut être capable en fait de synthétiser tes idées et d'être dans la tension permanente quoi Et je trouve aussi que Manhunter, c'est un des plus beaux héritiers du spirit de Will Eisner, qui était aussi des chapitres qui avaient cette particularité en fait, d'être un comic strip qui était vendu en supplément dans les journaux du dimanche dans les années 40. Et en fait, c'était un supplément comic book. En gros, il y avait comme vous avez maintenant le supplément télévisuel, le magazine télé en même temps que votre quotidien, là, il y avait un magazine de comic book qui était offert en même temps que... ce qui voulait dire que le créateur, Will Eisner, devait rendre une histoire de 8 pages. Donc, il y avait le Spirit et il y avait d'autres... c'était le je ne sais plus comment s'appelle le nom du... Je crois que c'était le Weekly Comic Book. Et il y avait le Spirit et plusieurs autres... bande incorporée qui était Lady Luck, je sais plus. qui était du studio de Eisner, mais Eisner se concentrait sur le Spirit, et il arrivait à faire 8 pages, mais des histoires hyper complexes avec plein de personnages, plein de rebondissements. Et moi, j'ai vraiment je retrouve cette atmosphère-là, surtout sur le premier chapitre, qui est vraiment un chapitre où, en fait, on n'arrête pas de te balader de page en page. Chaque page a un coup de théâtre, en fait, dans le premier chapitre de Manhunter. Tu es baladé constamment. Et en plus, tu arrives en plein milieu d'une intrigue, ce qui était aussi le cas dans de nombreux épisodes du Spirit. C'est-à-dire que tu es plongé dans l'action directement et c'est à toi de te raccrocher au wagon, quoi. On va te l'expliquer petit à petit au fur et à mesure le pourquoi du comment de l'aventure, mais tu es lâché en pleine action. Et je trouve que c'est vraiment du même ordre, quoi.
Bah, je trouve même qu'au dessin, Simonson, il a ce côté un peu Will Eisner, bah, dans tout le travail sur la composition des cases. Alors qu'une fois qu'il sera à la Marvel, on sent qu'il va s'inspirer plus de Kirby et reprendre plus les codes de Kirby. Il n'y a pas vraiment ça dans ces épisodes de Manhunter.
Tu n'as pas l'influence kirbienne.
On va peut-être plus penser à du Joe Kubert ou des choses comme ça plutôt que Kirby. Et moi, j'ai l'impression que ça... Il y a ça aussi. Hein. Mais j'ai l'impression que ça a beaucoup influencé Frank Miller aussi sur...
carrément.
Par la suite. Hein, c'est,
Il y a une scène là, de baston à un moment donné dans un... Justement, quand il va chercher le... Quand il remplit son contrat là, pour le premier contrat où il va chercher l'agent d'Interpol qui doit tuer, en fait, il s'aperçoit que l'agent d'Interpol bosse pour le conseil. La page de baston, c'est du Miller, quoi. Du Miller avant l'heure, du Daredevil de Frank Miller avant l'heure, dans les poses de Manhunter, la façon dont il montre le coup de pied en avant avec l'autre jambe bien repliée. Cette composition où tu as des cases horizontales, mais qui jouxte une grande case verticale qui fait toute la page. La case verticale qui fait toute la page, en fait, elle se sert de toute la verticalité pour montrer la chute de Manhunter en fait, du haut d'un immeuble, quoi.
Totalement.
Et après, tu as une page avec le détail des armes du Manhunter, juste la page d'après qu'on retrouve dans Daredevil quand ils font la base de Daredevil, le lasso canne de Daredevil.
Il y a l'épisode suivant, la cathédrale du péril, donc dans la cathédrale avec la figure de cowboy, quand tu vois les... Donc en fait, c'est toute une réunion du conseil et ils se déguisent en fait, enfin, ils mettent la soutane, tout ça, pour ne pas paraître. Et en fait, il y a deux ou trois plans. Et le fait que ce soit dans la cathédrale, j'ai aussi beaucoup pensé, moi, à l'épisode de Daredevil, qui était écrit, je crois, par O'Neill et dessiné par Mazzucchelli, où Daredevil était en quête de ceux qui ont tué Heather. Et on se retrouve dans l'église à Venise et tout ça, où il est emmuré vivant. Et je repensais beaucoup, j'ai beaucoup repensé à cet épisode-là.
Il y a une maîtrise dans le dessin de Simonson pour son âge, qu'on retrouve chez pas grand monde, mais qu'on retrouve notamment chez Mazzucchelli. Quand il travaille sur Daredevil, il a un niveau qui est comparable à ce que sort là Walter Simonson.
C'est vrai que le lien entre, enfin, la filiation entre effectivement le boulot de Mazzucchelli sur Daredevil et c'est maintenant que tu le dis, ça saute aux yeux, effectivement, dans les poses, dans la façon même dont il dont il caractérise ces personnages où par moment c'est très détaillé. Par moment tu vas faire quelques petites ébauches sur le personnage. Je trouve ça.
On sent qu'il maîtrise beaucoup de techniques, quoi. De dessin.
Ce que j'aime aussi, c'est c'est 8 pages inclus dans le Detective Comics. Donc la couverture, c'est Detective Comics, généralement c'est Batman, hein, c'est pas Manhunter. Ouais. Et pourtant, les premières pages de chaque épisode, c'est une couve. Alors mon préféré, je crois que c'est le deuxième épisode, et ça, tu vois, il y a que la BD qui peut faire ce truc là donc c'est l'agent d'Interpol qui ouvre le dossier, Sinclair qui lui parle, et en fait t'as une photo du Manhunter avec le tigre qui lui saute dessus parce qu'il est pris au piège et donc on lui a balancé le tigre pour se défendre. Et donc ça fait couf, quoi, parce que fondamentalement, tu peux te dire aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un photographe dans le bateau qui a pris la photo du tigre en train de sauter sur le... Non, mais qui a fait... Genre, il devait y avoir Peter Parker dans le coin, enfin, tu sais. Mais ça, toi, tu te poses 2 secondes, enfin, si tu te poses, tu réfléchis au truc, tu te dis, ah ouais, mais c'est complètement ouf parce que c'est pas du tout crédible. Mais ça, en tant que couverture, enfin, ouverture de l'épisode, mais putain, ça tue. C'est génial. Moi, j'adore. Et il y en a plein. Enfin, chaque épisode, tu vois, où dans la ruelle avec le camion qui et Sinclair tout phare allumé, tout, enfin camion ou la voiture, c'est le mec d'Interpol, pareil, c'est superbe comme ouverture. Enfin, ouais, les premières pages à chaque fois, ça te, tu sais, c'est comme les films d'aventure où en fait, quand t'arrives dans un nouveau pays, t'as d'abord l'énorme grand plan avec tu sais, des trucs comme ça. Et ça, c'est
à comment planter le décor, quoi.
Ah ouais, ouais.
Et pour en revenir à Miller, il y a aussi une case, alors c'est la case 5 du dernier épisode avec Batman, où après qu'il est il est sur la piste d'un tueur, il récupère le fusil à lunettes, et il y a une case où il est en haut du building avec le fusil à lunettes sur le dos. C'est trop le Dark Knight, quoi.
Tout à fait, ouais.
Dark Knight Returns,
totalement.
Là, quand... Bon, moi, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Hein, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, le Manhunter. Je connaissais l'existence, mais je n'avais jamais lu le truc. Et quand j'ai vu cette case-là, je me suis dit, ta merde. Il y a tout le Dark Knight Returns en une case, quoi. dans cette BD. C'est...
Ouais, et puis même là, tu vois, c'est dans cet épisode-là aussi qu'il y a un assassin qui se fait tuer. Sur 3 cases, en fait, tu le vois glisser en fait sur le corps de Batman, en fait essayer d'agripper la façon dont tu as la réaction, dont il tombe, et après tu as le visage déterminé de Batman, donc qui garde la même pose en fait de profil tout le long. Ça fait très Miller, quoi. Ça fait très ce que tu retrouves. Ouais, ouais.
Je disais qu'on pouvait pas faire de la décompression, mais si, on peut la faire sur 3 cases.
Ah oui, parce que ce que disait Jérôme, c'est qu'il teste, il expérimente des tonnes de styles. À un moment donné, il y a toute une case, en fait, c'est que des silhouettes d'un sniper qui va se prendre la pose et qui est dans un viseur. Et en fait, on le voit vraiment, le découpage. C'est un peu comme, comme des génériques de James Bond ou des génériques des années 70. Ça pourrait être un générique de série télé de l'époque, quoi.
Tout le passage avec le père de Sinclair qui tente de la... Il essaie de la convaincre dans le train et qui après décide de... en fait, il se suicide. Enfin, ouais, il se fait tuer en descendant du train avec le brouillard, avec plein de petites. Il y a quoi? Il y a 6 ou 7 petites cases et tout ça. Ouais. C'est pareil. C'est une autre ambiance au sein d'un épisode et même au sein même d'une page, puisque c'est quand même, c'est juste la moitié d'une page. La première moitié, c'est, on va dire, le.
Voilà, incroyable cette séquence.
La narration classique du récit.
Ça fait très Eisner. Eisner avec tu le vois descendre du train
avec toutes les cases qui sont en brouillard comme ça.
Ouais, qui sont en brouillard. Il n'y a pas de cases en fait en rectangle ou en carré. C'est en fait c'est les volutes
tout du est ondulé.
Qui englobe les dessins. Et puis on passe d'un gros plan où il remonte le col de son imperméable, on voit qu'il a un chapeau, et ensuite on voit la toute petite silhouette, c'est juste une petite tache, et on voit le spot qui est derrière lui, qui fait une grande ombre devant lui. C'est vraiment avec le comment dire, le métro dans le brouillard, ça rappelle des épisodes du Spirit complètement. Quoi. C'est avec aussi un peu de Bernie Krigstein, le dessinateur de DC Comics, qui avait fait aussi des épisodes ultra connus, comme un épisode qui est sur un ancien nazi qui est poursuivi sur les quais d'un métro. Et ouais, voilà, il fait vraiment comment dire, il fait le grand écart entre, il a complètement absorbé les techniques anciennes. Il est totalement dans les techniques de son temps, un peu comme ce que faisait Steranko sur la fin des années 60, mais en encore plus poussé, avec des formes complètement différentes de cases, des techniques de dessin complètement stylisées suivant les pages, pas du tout les mêmes ambiances, des choses qui rappellent des affiches de films, des choses qui rappellent des codes graphiques de la pub ou quand on voit par exemple, on voit à un moment donné, il explique le principe des clones et on voit en fait plein de petites têtes de Paul Kirk qui sont reliées par comment dire, un petit code graphique comme ça, on a l'impression de regarder une plaquette publicitaire.
Ouais, et surtout à une époque où le clonage c'est quelque chose, même pour le lecteur de style de récit, c'est assez rare de voir ce truc-là.
C'est peut-être là la seule influence Kirby, puisqu'il en parle déjà dans les Force World à la même époque.
Oui.
C'est le tout début, peut-être, de ce genre. Enfin, à part dans certains sûrement romans de SF.
Il y avait le film dont parlait Isaac, là, Ces garçons venus du Brésil, qui est une histoire de clonage. Je ne sais plus de quelle date il est, justement, aussi.
Ouais, le roman, pareil.
Ouais, je crois que c'était 73.
Je pensais au film.
Le film est plus tardif. Je crois que c'est vers 78-79.
Ah, c'est vieux.
Alors, on va vérifier, mais on recommande chaudement ce film. Hein. Moi, j'adore.
C'est incroyable.
Ouais, 78, ouais.
Ah, tu vois,
le bouquin doit être. Le bouquin, je l'ai pas encore lu, là, je l'ai récupéré. Mais. Et puis pour en revenir à ça, donc il fait le grand écart entre ses techniques anciennes, les techniques actuelles, et puis il anticipe ce qu'on va avoir plus tard avec, effectivement, Frank Miller. Même si aujourd'hui, je pense qu'un lecteur actuel va trouver qu'il y a trop de cases, trop de dessins et trop de dialogues.
Il y a un peu trop à lire. Pourtant, il n'y a pas de narratif.
C'est très dynamique. De toute façon, ça va ça va direct à l'information. Et puis, je trouve que ces dialogues sont pas bêtes. Quand il te raconte vraiment il y a des narratifs. Par exemple, je sais que il y a Fabrice, un de nos amis qui c'est la BD, une des BD préférées, qui me rappelle tout le temps en fait le narratif des trois archers que Manhunter combat lors du premier chapitre. Et le narratif, c'est en battre un est un exploit, en battre deux est un miracle, en battre trois est une impossibilité.
Ouais. Ça, c'est super.
Tu les vois se faire battre les uns après les autres. Puis tu vois Manhunter qui est complètement défait, quoi, avec plein de flèches.
Ça influence aussi le Wolverine, la mini-série Claremont Miller. Hein. Je pense que c'est que des suppositions, mais je pense pas qu'on puisse prouver le contraire que
Christine et Rousse aussi dans Manhunter. C'est bizarre, hein, parce que il a un truc pour les Rousse.
c'est ce que tu dis. De toute façon, c'est typiquement le récit.
Je pense que ça a dû mettre une claque à tout le monde à l'époque.
Ouais, ça, fait
ça a été
tous les dessinateurs.
Ça a été multi-récompensé.
C'est comme certains films ou certaines BD où en fait ça n'a pas forcément trouvé son public, mais par contre les professionnels l'ont vu et ils se sont fait putain, c'est quoi ce truc dingue, quoi. Et pour lequel ils ont pioché après.
Et il y a eu quand même un engouement du public, mais le problème, c'est que le public n'est pas venu sur Detective Comics. Alors après, ce n'est pas la faute de Manhunter, puisque de toute façon, les ventes étaient en berne à l'époque, et Manhunter n'est pas sur les couvertures. Enfin, tu le vois juste en pastille, en médaillon, il y a les... dans le magazine, mais la couverture, c'est Batman, quoi. Et à l'époque, les ventes sont en berne. Et en revanche, quand tu lis le courrier des lecteurs de l'époque, les avis sont dithyrambiques. Hein. Les lecteurs, ils sont complètement à fond dans l'histoire, à tel point que ça va gagner je crois que ça va gagner, alors je ne sais plus quelles sont les récompenses qu'il va avoir en 73 et en 74, mais aussi en 79, quand ils vont faire pour la première fois des rééditions chez DC de BD de leur catalogue.
En quelle année, tu dis ?
79.
Ouais, donc c'est pas du tout courant à l'époque.
Pas du tout. Et ben, c'est un des premiers titres qui est sélectionné donc par Jeanette Kahn, qui est la nouvelle publisher, pour avoir ce traitement de faveur, à tel point qu'ils vont même refaire les couleurs. Les couleurs sont entièrement refaites par Klaus Johnson, qui à l'époque est également sur le Daredevil de Frank Miller. Et les couleurs de Klaus Johnson vont, c'est les couleurs que tu vas réutiliser dans toutes les réimpressions de Manhunter. Il y a une nouvelle intro de Archie Goodwin qui est aussi dans le Manhunter spécial que j'ai, qui date de 99, dans lequel donc il y a la réédition de ces épisodes, plus un chapitre inédit, puisque malheureusement Archie Goodwin nous a quittés en 98. Il est mort d'un cancer assez foudroyant. Pour raconter un peu comment, ce qu'il est devenu, Archie Goodwin, après Manhunter, il a notamment donc écrit Star Wars chez Marvel. Il a créé la ligne Epic, qui était la ligne adulte de comic book chez Marvel tout au long des années 80. Et il était superviseur éditorial. Et ensuite, il est repassé chez DC à la fin des années 80, où il a lancé Legends of the Dark Knight et d'autres... superviser d'autres projets éditoriaux, dont un dont on va parler je pense juste après, quel Golden Age, dans lequel Paul Kirk intervient. Donc au cours des années 90, il apprend qu'il a un cancer, il meurt en 98, et à l'époque ils avaient comme idée avec Walt Simonson de refaire un épisode de Manhunter, mais avec l'idée de pas de pas contredire ce qu'ils avaient fait dans la série des années 70, qui se finissait, puisque le spoiler, mais l'épisode final se termine avec la fin de Manhunter, quoi. Il y a vraiment une fin à Paul Kirk. Et donc ils font cet épisode, ils parlent de plusieurs idées, ils décident de faire un one shot dessus. Et cet épisode, ils le réalisent de nouveau avec la méthode Marvel, et ce qui veut dire que Walt Simonson a toute l'intrigue mais n'a pas les dialogues, et entre temps donc Archie Goodwin meurt, donc Walt Simonson hésite, il a quelques pages de croquis, il a quelques pages de découpage, et puis c'est sa femme Lucy Simonson qui le convainc de faire l'épisode mais en muet. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dialogue. Et l'épisode est très beau. Tu le comprends complètement, sans les dialogues. Et c'est dédié à Archie Goodwin. Voilà.
Alors, au moins, il fait une bonne chose, Lee Simonson.
Il est super parce que justement, c'est le Simonson fin des années 90.
Tu vois la différence.
Tu vois la différence. Et en même temps, tu vois je trouve la filiation, quoi. Tu t'y perds pas. Il est génial cet épisode. En plus, tu vois, il contredit pas et il rend magnifiquement hommage au personnage, quoi, tout en étant une histoire. Et j'aime bien parce qu'il est aussi. Je trouve qu'il y a un truc qui me plaît beaucoup dans Manhunter, donc on a dans cet épisode et dans l'épisode final, c'est comment le personnage, comment il pose le personnage de Batman. C'est-à-dire que c'est vraiment le Manhunter, le héros, et le personnage Batman est beaucoup plus en témoin. Par le personnage de Manhunter, tu vois aussi ce qu'est Batman. C'est-à-dire que le Manhunter va faire des choses que Batman ne fait pas. Et je trouve que ça... Moi, j'aime beaucoup la manière dont Batman est beaucoup plus... Il a un témoin actif Mais il reste quand même en retrait dans l'histoire du Manhunter. Et la première apparition, c'est une des rares fois, je trouve, que je peux voir ça, la première apparition du Manhunter face à Batman, celui qui est, on va dire, celui qui est en défaut, c'est Batman. C'est pas le Manhunter. Alors que, on va dire, 90% du temps, quand tu as une rencontre entre les deux, tu sais qui est le mal alpha, ouais. On pourrait dire. Et là, c'est quand même le Manhunter qui limite lui fait la leçon, quoi.
Ouais, et puis ce qui est marrant, c'est que Batman passe son temps dans l'épisode à essayer de rattraper
les
services alors que personne ne veut bosser avec lui.
C'est ça.
Et c'est Batman Goodwin a été assez malin pour ne pas faire simplement Batman qui tombe dans l'intrigue de Manhunter, c'est qu'il est relié parce que il veut venger un de ses amis policiers.
Ouais. Ce que j'allais dire. En plus, l'histoire de Batman, elle est super cool, quoi.
Mais oui.
L'histoire de vengeance de son ami là, qui avec un twist à la fin. C'est voilà, même ça, c'est pas.
Ah mais le twist est super. Moi, je me suis pas attendu en plus.
Un petit détail qui sera repris dans Nightfall, dans Night Scene notamment. C'est-à-dire le coup de, il y a un détail autour d'un coup de kung-fu qui s'appelle la patte de léopard.
Ah, oui.
Et en fait, ça sera repris dans Night Scene dans les années 90.
Bah, c'est pas un peu l'équivalent de la prise Vulcan
Non, c'est l'espèce de coup de coup de paume en avant.
Ah ouais, non, t'as raison, je comprends avec
l'autre. Je suis censé faire remonter ton nez dans
C'est ça. Ouais.
La grosse patate dans la gueule, on appelle ça.
La grosse mandale.
Ouais, c'est une fois qu'il l'a maîtrisé, il peut redevenir Batman, non dans,
c'est,
dans
ouais, ouais,
c'est
voilà.
À peu près ça, non
ouais, alors, c'est pas totalement le même nom. Mais en gros, c'est la même. Parce que tu vois, en fait, le geste est décidé de la même manière. Et puis. Et il a. C'est quand il a l'espèce de masque de Tengu, là, de démon qui sourit.
Ouais, oui, bah, qu'on retrouve quasiment là-dedans, hein, avec le masque.
Il y a un peu le même. Ouais, voilà. Donc, les influences, elles ont été jusque dans les années 90, puisque Denis O'Neill et Archie Goodwin étaient bons amis. À tel point que Denis O'Neill et Archie Goodwin et Mike Carlin apparaissent dans Batman Adventures. Sous les traits de Mr. Nice, comment il s'appelle, le professeur, et Mastermind, qui sont trois truands qui planifient des plans complètement insensés. Et c'est des truands qui n'apparaissaient pas dans le dessin animé, mais qui ont été inventés dans l'adaptation du dessin animé en comic book, en hommage à l'époque aux trois grands éditeurs de DC Comics, qui était Denis O'Neill, qui s'occupait des titres Batman, Mike Carlin, qui s'occupait des titres Superman, et Archie Goodwin, qui s'occupait des projets spéciaux. Et il y aura un épisode hommage quand Archie Goodwin mourra à Mr. Nice, qui part, pareil, qui part au Népal, en fait, qui part un peu comme Paul Kirk. C'était vraiment...
Les Batman Adventures, c'est une excellente série.
Oui, voilà, c'est
on peut le souligner ici. Hein, si vous avez jamais testé, n'hésitez pas, il n'y a rien à acheter. Hein, donc...
C'est du bon.
Il ne faut pas croire que ce sont des histoires, on va dire, pour enfants dans le mauvais sens du terme. Quoi.
Ouais, c'est pas de l'exploitation de franchise. C'est,
C'est pour toute la famille. Et c'est vraiment.
C'est plus. C'est plus.
La possibilité de faire du comics d'une manière un peu différente de ce qui était proposé à côté, c'est-à-dire des. Ce qu'on appelle maintenant le feuilleton, la continuité envahissante, les crossovers envahissants. Là, c'était vraiment une issue, une histoire. Et parfois peut-être sur un ou deux épisodes, mais ça permettait aux auteurs de pratiquer. Une rigueur qu'on retrouve plus trop maintenant. Hein,
ça permettait de développer les séries animées qui sont excellentes.
L'univers,
L'univers. Qu'on n'a pas égalé depuis.
Ouais, les Superman Adventures, ils sont passionnants aussi. Hein, c'est... Tu bouffes les épisodes, quoi.
Et puis donc, Archie Goodwin, il a aussi supervisé donc une mini-série en 4 épisodes qui s'appelle Golden Age, donc écrite par James Robinson et dessinée par Paul Smith, dans lesquelles on retrouve Paul Kirk, on retrouve Manhunter, qui était un hommage de James Robinson à la série de Archie Goodwin. Qui d'ailleurs fait le lien entre... on apprend ce qui est devenu, en fait. On voit vraiment ce qui est devenu Paul Kirk entre le passage donc de ces BD des années 40 qui ont eu quelques années d'existence jusqu'à 42 et la Seconde Guerre mondiale et sa réapparition dans les années 70. Quoi. On voit notamment en agent double lancé derrière les lignes ennemies qui va être complètement traumatisé, qui va revenir au pays à moitié schizophrène. Quoi.
Ouais. Ouais, c'est une excellente mini-série, Golden Age.
Je disais, mais en fait. C'est...
Oui, vas-y.
C'est bon ? Non, excuse-moi. Je disais, mais que justement, Golden Age perpétue un peu cette idée du Manhunter qui est de. Les héros des années 40. Que sont-ils devenus, mais dans un contexte beaucoup plus désabusé et d'une manière de, surtout dans une manière, comment dire, de réécrire, en tout cas d'offrir des récits historiques sur une période américaine via les super-héros. Je trouve que Manhunter parle à fond des années 70 alors qu'on est en plein dedans en plus pour le coup. Je pense aussi à Une Nouvelle Frontière de Darwin Cook qui est de se dire voilà que sont devenus les héros, enfin qu'ont fait les héros de l'âge d'or pendant le McCarthyisme. Tu as déjà ce côté un peu relecture ou analyse postmoderne du super-héros dans Manhunter.
Ouais.
Déjà, ça préfigure le truc.
Ouais.
Manhunter, il aurait très bien pu être publié comme ça, en tout cas créé comme ça, dans les années 90. Parce que c'était typiquement le genre de relecture que tu avais, en fait, post-crisis, quoi, on va dire. Il y aura d'ailleurs une série Manhunter, puisqu'il y aura plusieurs Manhunter. Ça, c'est aussi un autre... Une autre particularité de DC, parce que très peu de temps après la série Manhunter, donc en backup, un autre Manhunter va être créé par Jack Kirby dans un numéro de First Issue Special, mais qui n'est pas du tout Paul Kirk, qui s'appelle Mark Shaw, et qui est recruté par une secte de Manhunter, donc qui lui donne un costume qui est similaire à Jack Kirby. Et Steven Englehart, quelques temps plus tard dans Justice League of America, va reprendre le personnage pour expliquer que les Manhunters sont reliés aux gardiens de l'univers, et notamment c'était le projet des gardiens de l'univers avant de créer le corps des Green Lantern. C'était des robots trackers qui combattaient le mal, mais qui ont pété un plomb et qui sont devenus un peu fascisants. Donc du coup ils ont arrêté d'employer des robots et ils ont décidé d'employer des humains avec le corps des
Green Lantern. Ces hypocrites de gardiens.
Ouais, ce qui a très bien marché avec Hal Jordan. Les Manhunter, se sont rebellés, attaquent les super-héros donc dans les épisodes de Steven Englehart, et ils attaquent aussi dans les années 80 dans un truc qui s'appelle Millennium, où ils implantent en fait dans chaque série, donc c'était un crossover de DC peu de temps après Crisis, 87 je crois ou 88, et en fait ils implantent dans chaque série DC Comics, c'est un traître en gros. Et on s'aperçoit qu'ils bossent pour les Manhunter, qu'ils bossent pour ces robots de l'espace. Et John Ostrander et Kim Yell sortent une série qui s'appelle Manhunter, après Millennium, avec Mark Shaw, qui reprend le costume de Manhunter. Et la série est vraiment bonne, elle n'a pas duré longtemps, parce que ça n'a pas été un gros carton. Mais la série est vraiment chouette, avec Mark Shaw, c'est un avocat qui est aussi justicier, qui est un peu comme Daredevil, quoi. Et pour DC Comics, et il a les mêmes questionnements sur sa mission, sur la justice, et il décide d'arrêter d'être Manhunter à la fin. Il y aura une nouvelle Manhunter dans les années 2000 qui est je crois qu'elle s'appelle Kate Spencer, qui elle est procureure. C'est écrit par Marc Andreyko, c'est pas mal du tout. C'est pareil, c'était il y a eu des backups dans Detective Comics, puis il y a une série. C'est pas mal, c'est relié aussi au héros des années 40. Et puis, comme d'habitude, notre ami Brian Michael Bendis a fait n'importe quoi dans les années 2010. un crossover incompréhensible qui s'appelle Leviathan, machin.
Ah
oh,
bah oui, oui.
Ouais. Leviathan Rising ou un truc comme ça, qui fait revenir Mark Shaw en super méchant de l'univers DC, enfin n'importe quoi.
Mmh. Qui a des voilà. pouvoirs cosmiques.
Il a une armure. Il y a toute une enquête pour savoir qui est Leviathan. Et ça a duré des mois. Et dans les interviews, il disait, vous verrez, c'est un mec qui est relié à la Ligue de Justice. Jamais vous trouverez. Et effectivement, jamais personne n'a trouvé. C'est ça. Les indices ne menaient pas à ce personnage-là. Donc, du coup.
Alors, c'était Mark Shaw ou c'était
Mark
Paul Kirk. Mark Shaw. Okay. Il a quand même pas ressuscité Paul Kirk. Quand même non. pas été jusque-là. Okay.
Non. Par contre, Paul Kirk, il y a un de ses clones dans une série que j'ai pas lue qui s'appelle Power Company, écrite par Kurt Busiek et dessinée par Tom Grummett. Il y a un des clones de Paul Kirk qui fait partie de cette équipe.
Ah, ça vaut peut-être le coup de jeter un coup d'œil.
Et pour finir le survol, donc il y a aussi dans la série JSA de James Robinson et David Goyer. David Goyer a créé un personnage qui s'appelle Nemesis, qui est la fille du docteur Mikros, donc le docteur du Concile, du Conseil qui a cloné Paul Kirk, qui continue en fait leur méfait, qui a réussi à survivre au final de Manhunter, et donc qui a créé génétiquement deux filles, ses propres filles, qui sont améliorées génétiquement, c'est-à-dire elles sont plus résistantes, plus fortes, un peu comme Paul Kirk. Et il y en a une des deux qui est fidèle à son père et une des deux qui rejoint les héros, et c'est Nemesis. Et voilà, donc elle est reliée aussi à Paul Kirk, sachant que ça se continue dans la JSA où on apprend que désormais les clones qu'utilise le conseil, c'est les clones d'un vilain des années 40 qui s'appelle le Sports Master, qui a rencontré aussi Paul Kirk dans les années 40.
Qui est le père de Sport Billy.
Qui est le père de... Non, qui est le père de Tigresse.
Oui.
Dans la Justice and Justice Society. C'est vachement bien, moi, je conseille
la JSA.
Ouais, alors, oui, la JSA qui est ressortie là récemment en les Chronicles.
Voilà,
disponible, pas cher, jetez-vous dessus. De toute façon, tout Chronicle, c'est... ça vaut la lecture. C'est des achats que vous ne regretterez pas. Et par contre, je ne veux pas remuer le caca, mais il y a aussi une série Manhunter qui a existé, ça doit être dans les années 2000, non, 94, par Steven Grant au scénario. Et avec Dean Jarano au dessin, une série éphémère. Hein. Ouais. Et apparemment, Paul Kirk est le héros. Mais je vous avoue que je me suis jamais aventuré.
Vrai. Ouais, exact. Ouais, ouais.
Oui, il ressemble à Spawn, comme ça.
Ouais, mais je crois que c'est un des clones.
Ouais, ça doit être un des clones, à mon avis.
Ouais. C'est pratique le clonage, ça t'évite de faire. Et d'ailleurs, c'est tellement une bonne astuce qu'ils l'ont utilisé pour Captain Marvel.
Bon. Ouais, voilà.
Pour parler de Captain Marvel, on t'en a fait un clone au Skrull ou un truc comme ça, je sais plus comment ils avaient fait.
Enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes. Bon, moi j'aime pas Vin Jarano, mais j'ai rien contre Steven Grant, je ne sais pas. C'est peut-être même juste un numéro tout seul, je ne sais pas.
Non, c'était à l'époque où ils avaient justement, c'était la série où qui date de. Juste après Zero Hour, c'était une des séries comme Starman.
Ouais.
Ouais. Toutes les séries ont bidé, sauf Starman. Mmh. Manhunter,
Ça faisait partie du lot, ouais. Ouais, donc c'est peut-être pas forcément catastrophique, mais...
Starman, c'est mieux.
Voilà. Starman, c'est mieux. Voilà, si vous devez faire un choix, comme tout le monde, choisissez Starman.
Si vous élisez,
c'est pas pour rien que ça a marché.
Si vous voulez James Robinson, a priori, surtout à cette époque-là, il y a peu de chances que ce soit pas terrible.
Il faudra qu'un jour on parle de tout ça.
Ouais.
Bah écoutez, J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on voulait encore rajouter des choses? On pourrait encore passer des heures là-dessus.
Je peux dire un truc?
Vas-y.
Du coup, chez nous, compte tenu de la pagination un peu particulière, ça c'est jamais sorti en, on va dire, en BD cartonné.
Mmh.
Mais il y a toute la série qui est disponible quand même, parce qu'on vous fait les louanges, mais si vous voulez le lire, c'est sorti en français. Alors, en version originale, vous avez une édition, donc Isaac en parlait tout à l'heure, l'édition Prestige, je crois qu'on appelait
ça. Ouais, enfin, ils l'ont réédité plusieurs fois, vous le trouvez même dans les Tales of... si j'en ai un que je peux vous conseiller, c'est Tales of... Je crois que c'est Tales of the Dark Knight, Archie Goodwin, ou Legend of the Dark Knight, Archie Goodwin, Tales of the Batman, Archie Goodwin, je ne sais plus très bien. Mais un album en fait, qui reprend toutes les histoires de Batman, d'Archie Goodwin, et je crois que l'épisode est entièrement dedans. Mais franchement, ça a été réédité plusieurs fois, et vous pouvez vraiment le trouver pour pas cher. Quoi.
Exactement.
C'était une série qui faisait que 100 pages. Il y a moins de 100 pages.
Là, ça fait un récit, vraiment un récit complet, quoi.
Ouais, voilà. Mais c'est vrai que l'édition de 99, elle est bien parce que le papier est chouette. Et puis, il y a une intro de Archie Goodwin, il y a une postface de Walt Simonson qui explique un peu le projet. Ouais. Voilà, vous pouvez le trouver. Franchement, je crois que sur eBay, vous pouvez le trouver pour vraiment que dalle.
Dans les bacs à sol, peut-être aussi, ou si vous faites des bouquinistes. Et puis, en français, comme souligné, c'est disponible dans une revue. C'était le Batman Universe hors série. C'était le combien ? Numéro 5. Mmh. Où dedans, donc, il y a quelques épisodes de Batman, donc par Archie Goodwin, dont celui dessiné par Lex Todd, qui tabasse sa maman, mais alors d'une force. Et donc. Ah ouais, non, mais celui-ci.
Ouais, c'est vrai que non, mais il n'y a que des trésors dans ce numéro. Hein.
C'est incroyable. Et donc, tout le Manhunter derrière, avec plein de textes, de résumés, de mise dans le contexte, tout ça. Et
excellent travail éditorial.
Moi, ça me rappelle à quel point je kiffais les revues kiosques, parce que c'était 5,90 €, et vous aviez un chef-d'œuvre.
Et souligner la qualité de la traduction aussi. Hein.
C'était Jean-Marc Lenné, je pense, c'est ça qui a tout
fait. C'est ça, du beau boulot. Voilà, bon, donc voilà, vous savez quoi faire, si vous voulez découvrir cette série, vous allez sur eBay et compagnie et vous fournissez le Batman Univers 5 ou alors l'édition originale si vous souhaitez. Voilà, bon, on vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, on est aussi sur YouTube. Abonnez-vous, commentez, dites-nous s'il y a des choses qui vous intéressent, partagez. Isaac, un petit mot?
Ouais, on a oublié de dire qu'il y a une référence à Jean Giraud à un moment donné. Il dit qu'il y a un assassin belge qui s'appelle Giraud qui utilise les armes du. Voilà, c'était le petit coup de chapeau à mon avis à l'époque, puisque les artistes de comic book commençaient à regarder ce qui se faisait chez les dessinateurs franco-belges et notamment Giraud avec. Blueberry et puis son travail en tant que Mobius.
Voilà.
On n'a pas le moment fort et le moment qui craint.
Il n'y a pas de comment qui craint. Hein. Ça vous pouvez chercher. Je cherche, je regarde. Non, il n'y en a pas. Non. Non. Ah non. Non. Voilà, je dis à toute vitesse. Non. Et des moments top, comme j'ai dit, à peu près toutes les cases. Hein. Je ne sais pas, vous avez quelque chose.
Non, moi j'aime bien la mort de Paul Kerr quand il raconte le safari là au Kenya. Où il s'est fait écraser par un éléphant et t'as la page, c'est carrément une page complète sur l'éléphant qui lui rentre dedans. Et qu'il explique qu'il a entendu des battements d'ailes et qu'il pensait que c'était des anges, et en fait c'était juste les. Du conseil qui allait le cloner et lui pourrir la vie.
Putain, il a une force.
Ça, c'est pareil, c'est des petits détails comme ça qui, effectivement, qui rajoutent dans le côté désespéré de la chose, quoi. C'est...
Moi, on l'a souligné, mais c'est la grosse baston qu'il a avec ses clones dans l'appartement, là, découpé en plein de petites cases avec le finish, la traversée par la fenêtre et la chute là, sur la longue bande qui descend. Ça claque. Mais après, comme je dis, il y a quasiment tout qui est à prendre. Jérôme, peut-être que toi, tu as trouvé un moment qui craint.
Non, pas non plus,
de ce que je me dis.
Bah écoute, un qu'on n'a pas trop cité et qui tue, hein, c'est les trois pages de l'épisode où le Manhunter se bat contre son ancien mentor.
Ouais.
Pendant que le conseil se tire, et du coup, il y a sur trois pages, il y a cet énorme baston entre les deux à coup de. Bah, je crois que toutes les armes qui puissent exister dans l'arsenal d'un ninja sont utilisées.
Ouais.
Donc, non, c'est vraiment super avec une excellente conclusion qui ouvre après sur l'épisode de conclusion de la série.
Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, c'est chaudement recommandé si vous voulez voir une pièce maîtresse de l'histoire du comics américain, tout simplement, que beaucoup qualifient comme peut-être la meilleure bande dessinée ever. En tout cas, elle est dans le tiercé de tête.
Ouais, de DC Comics.
Ouais. Il y a tout. Il y a tout dedans. Voilà. Bon, ben, je vous ai dit où nous trouver. Donc, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde des comics. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a en programme, mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur aussi nos émissions sur John Byrne, Byrne Baby Byrne. Je sais plus sur quoi on avait fait le dernier. C'est pas grave, vous allez chercher. C'était peut-être. Il y avait. Hein
Captain America.
Captain America, ouais. Captain America avec Roger Stern au scénario. Avengers, rassemblement. Dans le dernier épisode, on a parlé de Rome. L'hommage à John Romita, toujours en ligne. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ça. Partagez auprès de vos amis. Et voilà, puis mettez des likes. Hein. C'est très bien pour le référencement, comme on dit. Voilà, bah, les amis, merci beaucoup d'être venus.
Merci.
Et pour le reste, on espère à tous que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.
Ciao. Bye bye.